Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et protégez-vous. Au programme, mère, veuve, amante. Et déjouer la déprime hivernale. Bonne écoute.
Mère, veuve, amante. Un texte de Robert Lévesque, paru dans L'Inconvénient, à l'été 2022. La mère d'Artaud, la veuve de Céline et l'amante de Baudelaire. Des femmes, Euphrasie, Lucette et Jeanne, qui ont engendré, épousé, séduit trois monstres de la littérature française. Complices, comparses, les voilà à nouveau, mises à portée de lecteurs, toutes trois saisies en des livres étonnants. Elles sont pensionnaires à demeure dans l'histoire littéraire, la petite, dans la resserre, on va dire, là où l'on entrepose ce misérable petit tas de secrets qu'évoqua Malraux en parlant de la condition humaine. Artaud et sa mère, Céline et sa danseuse, Baudelaire et sa mulâtresse. Que de tempéraments intempestifs eurent-elles à supporter les intimes de ces bêtes de race indomptable, Antonin, Louis-Ferdinand et Charles? Que furent les auteurs du « Pesner », du « Voyage au bout de la nuit », des « Fleurs du mal » ? C'est scandaleux, c'est maudit qu'on a interné, emprisonné, qu'on a accusé d'outrage aux mœurs et qu'ensuite on réédite, mort rassurant, dans les plus prestigieuses collections. Le hasard fait parfois bien les choses pour le chroniqueur aux aguets. Dans ces trois bouquins, j'allais évidemment sauter sans hésiter pour me taper en voyeur autant qu'en connaisseur ces portraits de meufs, de grands mecs qui ont langé, excité, ensorcelé ce qui s'est fait de plus fort, de plus fortichitou. Chez les écrivains parisiens de ces années dites loin derrière nous, mais, là encore, ces maîtres anciens en délire, en débauche, en débine, en déballage, en désinvolture, en démerde. Un fils fou, un mari scabreux, un amoureux enfiévré, Artaud le Momo, Louis-Ferdinand de Bardamu et Charles Lachinchine de l'hôtel Pimoda. Avec eux, était-il seulement question de vie quotidienne? Des remous et des jours, des rapides et des crises, des chutes et des fuites, trois Niagara d'inspiration et d'encre. Les mères ne sont pas des femmes. Qui ose écrire une telle hérésie? Une femme, une mère, et on ne s'étonnera pas que ce soit celle d'Antonin Artaud, Euphrasie Nalpas, l'épouse turque du capitaine marchand Antoine Roy Artaud, génitrice du suicidé de la société, la maman d'Antonin, mon Nanaki, comme elle l'appelait en matrone proprio. C'est une femme de lettres, éditrice et romancière, Justine Lévy, la fille de BHL, laquelle a par ailleurs réglé ses comptes avec la sienne de mère, le mannequin accro à l'héros dont son nouveau philosophe de père avait divorcé l'année de sa naissance. Le rendez-vous en 1995, mauvaise fille en 2009, qui assume l'effarante phrase en se métamorphosant sans vergogne en Euphrasie, on dirait le nom d'un pays lointain, difficile d'accès, et en signant, comme si elle était bel et bien cette, Smyrniote transplantée à Marseille, un livre intime, bref et braisé, au titre clair mais distancié, son fils. C'est un journal de femmes tout entier consacré aux inquiétudes maternelles et maladives quant au sort de son fils neurasthénique, mis au laudanum peu après avoir lâché le biberon, que tient la dite mère d'antan, et Justine Lévy, qui a potassé tout ce qui a été écrit par Artaud sur Artaud, pour Artaud et contre Artaud, s'octroie la licence littéraire de donner au lecteur l'impression, fausse mais assez vraie, salut Aragon, qu'il en lit des extraits pensés imaginés, imaginables, extrapolés, hypostasiés, inspirés, toutes notes d'une détresse continue, comme une basse en musique, qui vont de 1920, lorsqu'à 24 ans, son Anaki prend le train Marseille-Paris en agitant ses souliers par la fenêtre du wagon en guise d'au revoir à sa mère. Le père n'est pas là, il est en mer. Jusqu'à l'année 1948, quand, sans qu'il ait respecté cet au revoir, sans qu'il lui soit jamais revenu, le fils de Frazy meurt, seul, fixé, dit Lacan, édenté, écroulé d'usure au pied d'un lit de l'asile d'Ivry, le bas du corps rongé par un cancer du rectum. Dès la mort de son mari, en 1924, Euphrasie monte illico s'installer à Paris dans l'espoir de vivre près de Nanaki. Mal lui en prendra. Après maintes portes cognées, entre autres chez un alcoolique du nom d'Arthur Adamov, elle le retrace rue Caulaincourt, clochardisé, et s'en fait repousser violemment. Artaud n'a pas besoin de mère, lui qui a écrit dans Cigy « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils ». Il a créé en 1927 une pièce dont on ne sait rien sinon que le titre était « Ventre brûlé ou la mère folle » et qu'elle fut jouée deux soirs au théâtre de Grenelle. Artaud n'est alors que théâtre, fils de lui-même, donc de personne, produit de la cruauté. Ses mères sont des actrices de hasard qu'il rate toutes, pitoyable qu'il est au lit. En 1930, cette Euphrasie aurait donc écrit ceci. Au fond, ce dont j'ai horreur, ce sont les femmes. Pas les mères, non. Les mères n'ont rien à voir. Les mères ne sont pas des femmes. Elles sont beaucoup plus fortes. Plus fortes que les amantes, les épouses, les maîtresses, les gourgandines, les poisons. Je ne comprends même pas comment un fils peut préférer une femme à sa mère. Aussi, écrit-elle, persuadée que son fils n'a jamais forniqué, mon Antonin n'aime pas faire la chose. Je crois d'ailleurs qu'il ne l'a jamais faite. L'acte lui répugne. Une fois, Antonin m'a dit qu'il était enterré dans son corps. Impuissance et incompréhension de la mère d'un être humain qui, douloureusement, avait voulu en finir avec le jugement de Dieu. Je vous rappelle que vous écoutez « Mère, veuve, amante », un texte de Robert Lévesque, paru dans la revue « L'Inconvénient » à l'été 2022. Il est là, tu le vois. Louis. Plus longtemps qu'il n'aura été un mari, Louis-Ferdinand Destouches sera devenu un fantôme au long cours pour sa danseuse Lucette Almanzor, qu'au vu de ses jolies jambes en 1935, il avait épousée en 1943, passé les pamphlets, et qu'il avait quitté en 1961 pour l'au-delà, l'enfer assurément, dirent les bien-pensants, la laissant à l'état de veuve à 39 ans, un état civil qu'elle gardera et qu'elle célébrera, durant 6 décennies, étirant à outrance le délai de viduité, épouse durant 18 ans, veuve durant 58 ans, et finissant par mourir à son tour, puisqu'il le faut bien, mais ne s'y résignant qu'au siècle suivant, bien entamé, le 8 novembre 2019, à l'âge de 107 ans, et dans la même maison mythique et décrépite de Meudon, le 25 Terre, route des gardes dite la Villa Maïtou, où son épouvantail d'époux avait clamsé à 67 ans au moment où il achevait de noircir les dernières pages de son Rigodon, les dernières valses du bal tragique, les derniers points de suspension, ses bouées de sauvetage. Ce qui nous vaut d'entrer dans l'antre de la veuve de Céline, de vivre le temps d'une lecture dans l'air ambiant de Meudon, souvenirs et poussières, odeurs et araignées, craquement de parquet et chauve-souris, courant d'air et fleurs fanées, pipi de chat et relief de table, crottin de chevignol, sol déchiqueté, patates sautées, carcasses de homard. C'est un job d'été qui s'étira sur 20 ans, de 2000 à 2019, alors qu'une jeune femme ayant proposé ses services à une agence fournissant une assistance de vie aux vieilles personnes obtint ce contrat chez la veuve de Céline, mais sans trop savoir à quoi s'attendre, sachant que ce nom de Céline était célèbre, que le type était réputé être un génie littéraire qui fut autant détesté qu'admiré, mais qu'importe. Elle ne l'avait jamais lu, si ce n'est, avoue-t-elle candidement, la BD de Tardy, Voyage au bout de la nuit, que j'ai dévoré enfant dans la chambre de mon cousin préféré. Un peu, mais si peu, à la manière de Gunther Wallraff, se faisant passer pour turc afin de décrire l'enfer du travail des immigrés en Allemagne, ou Florence Obna s'engageant comme femme de ménage sur les ferries du quai de Ouistreham, mais sans être une journaliste ni avoir l'intention de mener une enquête. Sandra Van Brimersch a pris son mal en patience. On sent à la lire que la fascination n'était pas son fort. Elle a frotté, servi, ramassé, nettoyé, allumé, éteint, lavé, épousté, raclé, écouté, subi, rempli des verres, vidé les cendriers, enduré les caprices de la cour de madame lorsque, dans les premières années de son service, Lucette, jusqu'à 100 ans, recevait encore les dimanches et les mercredis l'avocat de Céline, un vieux danseur, les habitués des intellectuels germano-pratins, parfois Malraux et Louise de Villemorin. Une fois Aznavour, ce que, selon ses humeurs, Van Brimersch nomme Versailles à Meudon, ou le bal des vampires. On sent qu'elle se veut féroce lorsqu'elle écrit « Mieux que du poulet, c'est la vanité que chacun est venu chercher ». La Dame couchée, titre évoquant une gisante de marbre, est un drôle de livre qui m'a fait sentir tout drôle, tout chose. Un malaise est là de page en page, car on devine une certaine cruauté non vraiment assumée qui rampe dans l'encre de la primo-romancière, une dureté de regard qui vient de sa méconnaissance de l'importance du personnage, Lucette Almanzor. Donc, absence de la moindre délicatesse envers cette femme admirable qui fut la grande amie aimée de Louis-Ferdinand Céline après son Américaine enfuie en Amérique, Elizabeth Craig. Je n'y ai pas trouvé la fière Lucette du docteur Destouches, de Toto et du chat Bébert. Ce reportage de Sandra Van Brimersch, estampillé roman sur la couverture, n'est au demeurant qu'un règlement de compte mené par une employée de maison du genre Butor envers une vieille dame indigne. Jérôme Garcin, dans l'Obs, a parlé d'un roman spectral et ubuesque. Je vous rappelle que vous écoutez Mère, veuve, amante, un texte de Robert Lévesque paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. Spectral, certes. Dans les 6 ou 7 dernières années de la vie de Lucette Almanzor, lorsqu'elle ne sort plus, ne reçoit plus, qu'elle se réveille en pleine nuit et circule en éperdue dans la pièce aux vêtements, caverne coincée entre sa salle de bain et sa chambre. On ne sait si l'assistante de vie s'est occupée d'elle, mais l'on sait qu'au lendemain de ces nuits, la dite pièce aux vêtements était, comme elle l'écrit, dévastée comme après le passage d'un fougueux ouragan. Vous en connaissez des ouragans qui ne seraient pas fougueux? Lucette méritait mieux qu'une phraseuse. Dans certains passages écrits froidement, la veuve de Céline a les yeux exorbités, redressés comme un « i » et la bouche entr'ouverte à l'écume mousseuse des jours qui annonce la fin. Et celui-ci, où Lucette hallucine son homme. « Louis, il est là, tu le vois? Il m'appelle, tu l'entends? » Puis, sans état d'âme, Sandra Van Brimersch nous apprend au détour d'une phrase que le lit moelleux de la veuve a été remplacé par un lit cage à barreaux. Bagatelle, massacre et beau drap, le bout de la nuit, d'un trépas l'autre. Lucette rageraient Louis. Son histoire sans lui n'avait pas besoin d'une copie d'apprenti. Querens quem devoret. Déesse ou le bel animal, vase de tristesse, ou grande taciturne, le vampire. C'est sous ces appellations admiratives, inquiètes, apeurées, qu'apparaît dans certains poèmes des Fleurs du Mal cette métisse aux origines inconnues, dite la Vénus noire, plus mulâtresse que négresse, une créole à la peau cuivrée, venue de Saint-Domingue ou de l'île Maurice, peut-être de Saint-Barthélemy, ou, qui sait, de l'Inde. C'est une femme au nom changeant. Jeanne Lemaire ou Lemaire, Jeanne Prosper, Jeanne Jacmel, dans le doute, la postérité a retenu celui de Jeanne Duval, l'amante ardente et très infidèle de Charles Baudelaire, liaison ténébreuse et orageuse de près de 20 ans, au sortir de laquelle le poète ne l'oublia jamais, prit soin d'elle, l'entretenant comme on le fait pour une vieille amie, réglant ses factures, voyant à ce qu'elle ne prenne pas froid. Sur un portrait tardif que le poète a griffonné à l'encre d'Échine, fait de mémoire en 1865, longtemps après leur dernière rupture, elle a, coiffée d'un foulard en madras, la taille mince, la poitrine en avant, un air triomphant et quelque chose d'une lionne dans le regard. Sous ce dessin, Baudelaire en latin a écrit, cherchant quelqu'un à dévorer. Martiniquais donc d'un pays créole d'où Jeanne Duval aurait pu venir, Raphaël Confiant l'a dit née partout, cette descendante d'esclaves que Baudelaire croisa à la sortie d'un théâtre du Quartier Latin en 1842, alors qu'il avait 21 ans et elle 20. Écrivain de métier, Confiant réussit à merveille à nous faire entrer dans le Paris de Baudelaire, celui du spleen, des paradis artificiels, des parfums doux comme un secret, de la vive clarté, le Paris de Nadar et de Nerval, de Flaubert où lui, le beau-fils du général au pic, un militaire que sa mère a épousé trop vite, veuve durant moins d'un an, est un être de révolte, mais sans être un rebelle. C'est un dandy dépensier et endetté qui défie tous les codes sociaux et soulève autant d'indignation bourgeoise qu'il change d'appartement pour fuir ses créanciers plus de 40 fois. Sa Jeanne ne le suivait pas toujours. Leurs emportements étaient ardents, leurs disputes violentes, leurs ruptures nombreuses, leurs retrouvailles soudaines et sauvages, leurs nuits folles et enflammées où ils se retrouvaient la tête enfouie jusqu'à la suffocation dans la chevelure immense et crépue de sa mulâtresse envoûtante et maudite, divine et bestiale. Fuyante, tellement fuyante, que retracer son histoire en dehors de ses périodes de liaison avec Baudelaire est mission impossible. On sait qu'elle fut l'amante de certains de ses amis, Nadar, Théodore de Banville, de quelques peintres, mais où la saisir, où l'asseoir? La tâche est inutile à entreprendre, et Confiant le sait, qui se contente de la Jeanne de Charles, celle dont la seule adresse qu'on lui connaît est un appartement que Baudelaire lui paya un temps à 2 pas de l'hôtel Pibaudan dans l'île Saint-Louis, un loyer modeste où il allait la rejoindre et qui était situé au 6 de la rue de la Femme sans tête, aujourd'hui la rue Le Regrattier. Manet, en 1862, dans son atelier de la rue Guillot, a peint Jeanne Duval quelques années après ses liaisons avec Baudelaire. Sa beauté était en voie de flétrissure. Le tableau a 2 titres. La Dame à l'éventail et La maîtresse de Baudelaire. C'est une Olympia, quadragénaire et assise, dont l'immense masse de la jupe envahit tout le bas du tableau. Courbet, en 1855, l'avait, dans l'atelier du peintre, intégrée au groupe de ses amis. Elle se tenait debout aux côtés de son amant splinétique, en train de lire, mais, à la demande de Baudelaire, croit-on, le peintre aura accepté de l'estomper, de l'effacer. Avec le temps, va, tout revient. un phénomène d'exsudation du lion et de la peinture a 50 ans plus tard fait réapparaître la Vénus noire dans l'atelier. Le tableau est au musée d'Orsay. En le regardant bien, on aperçoit le visage de Jeanne Duval, son regard enamouré, ses lèvres sensuelles, et Baudelaire, toujours plongé dans son livre, n'est plus seul. Elle est réapparue, elle est revenue du gouffre, en repentir. Il a ressurgi, le bel animal. C'était « Mère, veuve, amante », un texte de Robert Lévesque, paru dans L'Inconvénient, à l'été 2022.
Déjouer la déprime hivernale, un texte de Laura Landry, paru janvier 2023 dans la revue Protégez-vous. Le trouble affectif saisonnier touche près d'une personne sur cinq. Pour le combattre, rien de tel que de se comporter en hiver comme on le ferait en été. Le temps des fêtes est passé. On voit moins de monde. On sort moins, les factures rentrent, les journées sont froides et les nuits longues. Janvier est difficile pour plusieurs. Le blues de l'hiver, ce n'est pas qu'une impression. La déprime saisonnière ou trouble affectif saisonnier, TAS, touche de façon grave 2 à 3 % de la population canadienne et près d'une personne sur 5, 20 % de manière légère à modérée. Les effets de cette déprime commencent à se faire sentir dès l'automne et atteignent leur pic au milieu de l'hiver. Quelles en sont les causes? Ce trouble est dû principalement à la baisse des heures d'ensoleillement qui vient jouer sur le niveau d'hormones et l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. La baisse de sérotonine joue sur l'humeur. Les fluctuations dans la mélatonine altèrent nos rythmes d'éveil et de sommeil. Certains ont beau dormir des heures, ils se lèvent fatigués. Les femmes, à cause des variations dans le taux d'estrogène, sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à être touchées par la déprime saisonnière. La baisse d'ensoleillement a un effet, soutient Marie-Pierre Lavoie, psychologue spécialisée en dépression saisonnière hivernale. Mais cet effet est amplifié par les changements de comportement. Les gens sont plus casaniers, ils socialisent moins, ne font plus les activités qu'ils aiment. Tout ça mène à la déprime. Certains facteurs peuvent aussi contribuer à cet état morose. Par exemple, pour les gens qui ont des emplois saisonniers et dont le rythme de vie et d'activité change radicalement pendant la saison froide. Bouger, sortir. Quand on se rend compte qu'on commence à trop vouloir être en mode cocooning, il faut passer en mode actif, dit Marie-Pierre Lavoie. La psychologue recommande de conserver un horaire de sommeil stable, de bien manger, mais surtout de faire des activités qu'on aime et d'éviter de s'isoler. En fait, de vivre en hiver avec plusieurs bonnes habitudes de l'été. S'exposer à la lumière naturelle est l'idéal pour ne pas tomber dans la déprime hivernale. Le mieux, explique-t-elle, c'est de conjuguer activité physique et exposition à la lumière. Les deux jouent sur notre métabolisme et apportent des bienfaits pour notre santé mentale. Le froid vous rebute pour sortir et jouer dehors? La solution, habillez-vous confortablement. C'est certain que si on a froid chaque fois qu'on va à l'extérieur et qu'on ne fait rien d'amusant, dit-elle, l'expérience est négative. Luminothérapie. Quand l'accès à la lumière naturelle est difficile, la luminothérapie peut aider. Vous trouverez des lampes de luminothérapie de bonne qualité en pharmacie, dans les grandes surfaces et certaines boutiques spécialisées en équipement médical. Pour maximiser les bienfaits de cet éclairage, l'idéal est de s'exposer tôt le matin afin de stimuler la phase d'éveil du corps, surtout s'il y a plus d'une heure entre notre réveil et le lever du soleil. Il est recommandé de commencer par une exposition de 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. On ressentira les changements assez rapidement, généralement au bout d'une semaine. Si vous avez des troubles de santé particuliers, mieux vaut consulter un professionnel avant de faire l'achat d'une lampe de luminothérapie. Certains effets secondaires, tels que l'agitation et la fatigue oculaire, peuvent apparaître, note la psychologue. La thérapie. Dans certains cas, la dépression saisonnière doit être traitée au moyen d'une thérapie adéquate. Il est important de reconnaître nos pensées négatives et de bien les gérer, mentionne la psychologue Béatrice de Montigny. La thérapie aide les personnes dont le diagnostic est confirmé à retrouver une bonne hygiène de vie et à socialiser pour mieux traverser les mois les plus sombres de l'année. C'était « Déjouer la déprime hivernale », un texte de Laura Landry, paru janvier 2023 dans la revue « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.